La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, chers auditeurs. Dans un environnement encore plus complexe et incertain, de nouvelles pratiques managériales se font jour dans les collectivités territoriales. De nouvelles postures des cadres sont attendues. Assistons-nous à une transformation des organisations. La crise sanitaire accentue-t-elle la transition managériale? Pour échanger sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Coralie Charles. Bonjour Coralie.
Bonjour Frédéric.
Coralie, je suis ravi de vous retrouver sur Fréquence Territoriale. Vous avez déjà témoigné lors d'une émission précédente sur le thème « Comment rapprocher la direction des ressources humaines des directions métiers d'une collectivité et en faire une RH partner ». Depuis, vous avez changé de fonction. Pourriez-vous ainsi vous présenter à nouveau, s'il vous plaît?
Alors effectivement, depuis notre dernier échange, j'ai intégré le cabinet Capnova, qui est une structure spécialisée dans l'accompagnement des transformations des organisations du secteur public et dans l'innovation managériale. Et à ce titre, en fait, nous intervenons essentiellement sur quatre champs, celui de la facilitation de projets et de dynamique collaborative, du coaching individuel d'équipe ou d'organisation ainsi que du co-développement, de la formation professionnelle pour les élus et les managers, et puis enfin des recherches et des publications pour nourrir toutes les réflexions sur tous ces sujets.
Très bien Coralie, justement, nous allons parler des études que vous réalisez. Afin d'alimenter nos réflexions sur le management, je vous propose donc à cet égard de nous parler de l'étude marketing que vous avez réalisée sur les dispositifs internes dédiés au management. Je parle d'école, de campus, de mission management dans le secteur public. Vous avez réalisé cette étude en fin d'année dernière et elle a été publiée dans la lettre du cadre territorial. Pourriez-vous nous en parler et nous dire quelles grandes tendances en ressortent?
Alors effectivement, Frédéric, nous avons souhaité nous intéresser de plus près à ces dispositifs d'école interne qui fleurissent un petit peu partout dans les collectivités, quelles que soient les strates, sous des formats assez variés, des dénominations aussi différentes, avec néanmoins des points communs et des grandes tendances que l'on a pu repérer. Donc je vais essayer de vous dire l'essentiel. Tout d'abord, sur les objectifs qui sont recherchés au travers de ces dispositifs internes et qui concernent en premier lieu les managers eux-mêmes, avec une volonté de les faire monter en compétences, de développer leurs compétences comportementales, de développer également des méthodes innovantes et plus collaboratives, également de les former d'une autre manière en étant beaucoup plus sur de l'échange de pratiques, de l'échange d'expertise, en testant de nouvelles méthodes, et puis de créer, grâce à ces promotions de managers dans ces écoles, de créer des vraies communautés apprenantes avec des logiques de réseau et d'entraide. Donc pour la collectivité, il s'agit également de faire évoluer la culture managériale commune et d'arriver à finalement, au travers de ces communautés managériales, développer la marque employeur et de contribuer à l'attractivité de la collectivité en ayant vraiment des managers qui sont le reflet de l'ADN et de l'identité de la collectivité. Et puis par ailleurs, il s'agit aussi d'accompagner plus globalement l'évolution des modes d'élaboration des politiques publiques avec le souci d'associer les usagers, d'associer les agents à l'élaboration, à la conception et à la mise en œuvre de ces politiques pour répondre à leurs attentes respectives.
Alors justement, s'agissant de cette co-construction des politiques publiques, selon vous, est-ce qu'il y a des prérequis? En d'autres mots, comment anticiper pour mettre en place ces dispositifs?
Alors, pour mettre en place effectivement ces dispositifs d'école interne qui favorisent l'intelligence collective, la concertation, la co-construction, il faut effectivement un certain nombre de prérequis. Le premier, bien évidemment, c'est d'avoir une vision partagée de ce qui est attendu de ce type de dispositif, avec un portage de la direction générale qui est indispensable et essentiel. Il faut également qu'il y ait une culture de la confiance qui se développe au sein de la collectivité. Confiance est son corollaire du droit à l'erreur, pour que les agents, les usagers se sentent autorisés à prendre des initiatives, à pouvoir expérimenter des nouvelles manières de faire, sans que les managers ne se sentent déresponsabilisés ou délégitimés, mais au contraire, que tout le monde puisse avancer dans le même sens et participer à cette co-construction collective. Et puis enfin, il y a un autre point qui est énormément remonté dans les témoignages que nous avons eus, c'est la nécessité de bien connaître la maison et d'aller sur le terrain pour recueillir le besoin, pour vraiment être en phase avec le réel et éviter du coup l'effet un petit peu hors sol qu'on peut trouver dans certaines démarches qui sont menées de manière plutôt descendante. Donc il y a vraiment ce souci d'orchestrer et d'entretenir une dynamique collective en associant l'ensemble des acteurs de la collectivité.
Alors justement, on va revenir sur la confiance et l'engagement réciproque. Le télétravail a été mis en œuvre, certes de façon inégale, mais néanmoins massivement depuis presque un an. Ce mode de travail dont vous parlez, basé sur la confiance, un engagement réciproque, donc là on parle vraiment de ce qui peut illustrer une bonne méthode de télétravail, est-ce que tout cela a réinterrogé les modes de gouvernance ?
Alors finalement, ce qu'on a pu constater avec les quelques mois de recul que l'on a aujourd'hui, hein, c'est que le télétravail n'avait pour le moment pas eu de conséquences si significatives que ça sur les modes de gouvernance, d'autant que sur les premières périodes en fait de la crise, ce n'était pas du télétravail, mais c'était plutôt du travail à distance imposé, contraint. Donc ce n'était pas un télétravail qui avait été organisé, réfléchi, co-construit justement avec les équipes. Donc il y a encore tout ce travail-là qui est à faire, à mon sens, dans les collectivités. Pour que chacun, en fait, puisse se l'approprier, il faut vraiment qu'il y ait un échange réciproque sur ce que ça implique pour chaque collaborateur. Et sachant que ça va être très différent d'une équipe à une autre en fonction des missions que vous exercez. Donc je pense que les managers ont vraiment intérêt à se saisir de cette question pour engager justement la discussion collectivement. Et qu'il y ait comme un contrat de délégation, quand vous déléguez quelque chose à quelqu'un, vous posez un cadre et chacun prend un engagement sur ce qui lui est demandé et sur ce qu'il est en capacité de faire également. Donc finalement, que ces travaux un petit peu contraints nous a permis de voir, c'est qu'il était d'autant plus nécessaire aujourd'hui de développer un management par la confiance qui à terme permettra effectivement de développer des nouveaux modes de gouvernance où l'autonomie, la responsabilisation des collaborateurs seront beaucoup plus présents et beaucoup plus ancrés dans les pratiques actuelles.
Alors, vous avez parlé de la crise sanitaire que nous vivons malheureusement actuellement. Au regard, justement, de cette crise sanitaire, assistons-nous à une augmentation de la résilience individuelle et collective ?
Alors, c'est assez difficile de répondre précisément à une telle question qui est très vaste. D'une part, parce que nous avons encore peu de recul, finalement, hein, sur les conséquences de cette crise, même si on commence à avoir quelques éléments. Par ailleurs, le terme de résilience a été utilisé de manière très abondante pour parler parfois uniquement d'adaptation, d'agilité, mais pas forcément en tant que tel du rebond qui pouvait être attendu quand on développe une résilience plus importante. Toutefois, on a, au travers des différents témoignages récoltés auprès des collectivités, le constat, je dirais, partagé, c'est qu'il y a eu vraiment une très forte capacité d'adaptation de la part des agents, des collectivités, à la fois sur la gestion de la crise, sur le maintien du service public, mais aussi sur la mise en place un petit peu abrupte des nouveaux modes de travail. Et dans le même temps, ce qu'on a constaté dans le dernier baromètre sur les pratiques managériales, donc qui est sorti dans la lettre du cadre territorial de novembre, c'est qu'il y avait un repli, paradoxalement, et un affaiblissement des bonnes pratiques managériales, avec un retour finalement à plus de centralisation, à plus de contrôle, à plus de directives, plus de descendants. Alors tout cela, bien évidemment, était lié à l'incertitude de la période actuelle, mais du coup, ça interroge le caractère durable des innovations et des savoir-être managériaux qui avaient pu se déployer auparavant dans certaines collectivités. Et du coup, la question, c'est comment finalement aujourd'hui, on va arriver malgré tout à transformer l'essai et à faire en sorte que ces nouvelles pratiques, que ces innovations, elles puissent contribuer justement à développer la capacité de résilience des collectivités et de leurs collaborateurs et à vraiment permettre à chacun d'apprendre, de progresser ensemble pour réinventer des nouveaux modes de faire, donc en capitalisant bien sûr sur tout ce qui s'est passé, puis aussi pour pouvoir permettre à chacun de se projeter, parce que c'est un peu ce qui manque aujourd'hui avec toutes ces incertitudes. Donc la résilience individuelle et collective devient effectivement aujourd'hui un enjeu pour les collectivités, à la fois pour favoriser l'autonomie, l'agilité, pour mobiliser l'intelligence collective, on l'a dit, pour renforcer l'engagement et pouvoir se projeter. Et au cœur de cet enjeu, il y a la confiance dont on a parlé tout à l'heure, qui va venir nourrir finalement cette capacité de résilience.
Alors, en écho avec notre précédente interview, l'accompagnement des managers constitue l'un des axes du plan stratégique de développement des ressources humaines. Et ce n'est pas à vous, je dirais en tant qu'ancienne DRH, que je vais l'apprendre, si vous me permettez. Donc, justement, comment, selon vous, développer une culture partagée et responsabiliser les managers autour d'objectifs ressources humaines communs?
Alors, effectivement, c'est un sujet qui me tient toujours très à cœur, cette question de la responsabilisation des managers autour d'objectifs RH communs. Plus largement, je dirais que c'est la culture managériale là qui est en jeu, hein, cette culture partagée qui regroupe un ensemble de règles, de pratiques, de valeurs, de références auxquelles tous les collaborateurs d'ailleurs et pas seulement les managers d'une organisation doivent être fédérés et doivent pouvoir s'y retrouver, hein, dans ces repères. Et l'enjeu pour moi, pour les directions des ressources humaines, ça va être justement de pouvoir contribuer à développer cette communauté managériale qui sera à même de diffuser cette culture dans l'organisation, par même de développer des nouvelles pratiques, d'expérimenter, parce que les managers, en fait, doivent devenir des ambassadeurs et des relais des politiques RH, et puis des ambassadeurs, on l'a dit, de la marque employeur. Je dirais que le meilleur levier, c'est le dialogue. Le dialogue pour mieux se comprendre, pour connaître les contraintes et les besoins réciproques de chacun, pour tisser les liens de confiance dont on a parlé tout à l'heure et pour pouvoir développer une coopération et un partenariat autour d'objectifs communs où les intérêts à la fois de la RH mais aussi des managers se retrouvent autour d'une vision partagée.
Notre émission touche à sa fin. J'aurais une dernière question pour terminer notre entretien et rebondir sur, je dirais, les alertes que vous avez pu partager avec nous aujourd'hui sur justement un retour un petit peu en arrière. Comment, selon vous, opérer un changement durable de culture managériale? Comment s'inscrire dans la durée?
Donc effectivement, Frédéric, la question de la durabilité, du changement, de l'incarnation de ces nouvelles pratiques au quotidien pose aujourd'hui question avec ces retraits, ces replis que l'on a pu constater. Alors bien évidemment, il n'y a pas de recette magique, hein, il n'y a pas de méthode unique. Il y a une citation de Marcel Granet que j'aime beaucoup qui dit que la méthode, c'est le chemin une fois qu'on l'a parcouru. Et effectivement, chaque organisation va prendre un chemin différent, celui qui va correspondre à son ADN, à sa singularité, à ses valeurs. Et pour autant, il y a néanmoins un certain nombre de prérequis qu'on pourrait poser. Et le premier, ce serait que cette transformation, en fait, si elle est uniquement portée par quelques-uns, qu'on peut constater aujourd'hui, ça semble insuffisant parce qu'il n'y a pas de stratégie globale, en fait, adossée à ces transformations qui peuvent intervenir dans certaines équipes ou à certaines échelles, mais pas à l'échelle de l'ensemble de l'organisation. Le fait d'avoir une approche qui soit beaucoup plus globale, soit systémique, c'est-à-dire où chaque partie prenante est acteur de la transformation et partage avec les autres des objectifs communs tout en ayant identifié ses propres intérêts et ses propres bénéfices à changer. Là, dans ces cas-là, on a tendance à constater qu'effectivement, les choses commencent à faire bouger l'ensemble du système et l'ensemble des sous-systèmes d'une organisation et donc du coup à devenir quelque chose de plus durable qui s'ancre dans la pratique au quotidien et qui fait corps, je dirais, avec l'organisation. Et pour essayer d'incarner, je dirais, ces évolutions et ces nouvelles pratiques, il y a notamment 4 qualités essentielles que l'on pourrait pointer, donc à la fois de la part de l'ensemble de la strate managériale, mais également des collaborateurs. La première, c'est le courage. Parce que ce changement demande de s'impliquer, d'accepter de se remettre en question, d'accepter de faire des erreurs et de le dire. Le deuxième point, c'est l'authenticité, pour pouvoir générer la confiance dont on a parlé tout à l'heure, qui va supposer d'être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait et qui on est. Le troisième point, c'est l'exigence. L'exigence envers soi-même, envers les autres, tout en étant bienveillant. De l'exemplarité pour créer ce sentiment de responsabilité partagée. Et puis de l'exigence parce qu'il faut y consacrer des moyens, de l'énergie. Et enfin, et cela va un peu avec cette exigence, c'est la persévérance. Parce qu'un changement de culture, une transformation, ça ne se décrète pas, ça prend du temps, ça se construit, ça s'accompagne. Finalement, pour opérer ce changement durable de culture managériale, il faut en fait essayer de s'accorder sur la raison d'être de la transformation qui est recherchée, sur cette intention commune. Et aligner à la fois les intérêts stratégiques de la collectivité avec les intérêts individuels, pouvoir partager ce sens commun et incarner une nouvelle culture.
Merci Coralie. Effectivement, je retiens courage, authenticité, incarner, exemplarité, exigence, persévérance. J'ajouterai donner du sens. Effectivement, tout est dit si vous me permettez. Merci beaucoup de votre témoignage et regard porté sur ces questions. Quant
merci
à vous,
Frédéric.
Un grand merci Coralie. Quant à vous, chers auditeurs, Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.